J'aimerais parler ce matin sur la prédication de Jonas. Il nous arrive tous de rencontrer des échecs, des difficultés. Peut-être que les choses ont mal tourné cette semaine. Vous espériez qu'une porte allait s'ouvrir, elle s'est fermée. On pensait parfois que Dieu allait agir d'une certaine manière. Et comme il n'a pas agi de cette manière-là, on dit « Dieu n'a pas agi ». Mais peut-être qu'il va agir d'une autre manière. Alors, on voit dans l'histoire de Jonas ici que malgré ses faiblesses et les erreurs qu'il a pu commettre, qu'il a su tirer des leçons de son passé et tourner une page et aller de l'avant. Et j'aimerais lire dans Jonas chapitre 3, à partir du verset 1er, pour voir comment il a été puissamment utilisé par Dieu alors qu'il avait connu un temps d'égarement et de désobéissance loin du Seigneur. Eh bien, Dieu lui a fait grâce. Jonas 3, verset 1. « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et il alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche et il criait et disait « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu et ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent rien, ne paissent point, ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent de toutes leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssions point ? Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Amen. Le premier point, c'est le verset premier qui nous parle d'une seconde chance. Jonas a connu son temps d'errance, il a désobéi à la parole de Dieu, il est parti à l'opposé de ce que Dieu avait demandé pour lui, c'était toujours la direction de Ninive, et il est parti en direction de Tarsis. On a vu comment, d'ailleurs, le diable a facilité tout de suite, il a trouvé le bateau, il avait l'argent, il a pu croire que même Dieu bénissait son entreprise, mais pas du tout. C'était en désobéissant, en fait, quand vous désobéissez à Dieu, eh bien, finalement, le diable s'arrange pour que ça se passe bien, en tout cas dans un premier temps. Et malheureusement, la tempête est arrivée, il a été jeté par-dessus bord et il a fait ce stage prolongé dans le ventre du poisson, 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson. Et c'est là qu'il a compris des choses sur Dieu, sur lui-même, que la carapace de Jonas, la carapace de son cœur qui était endurcie, a commencé à se fissurer, a commencé à se briser. Et on a vu la dernière fois qu'il n'y a que dans le ventre du poisson ou sous la terre qu'il se passe des choses comme cela, que le grain de blé ne peut libérer l'énergie ou le potentiel qui est en lui que lorsqu'il passe dans l'obscurité. Et dans ce lieu, je pense que Jonas aussi a appris à obéir. Il y a un verset concernant Jésus, c'est dans Hébreux 5, 7 et 8, qui dit que Jésus a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance pour les choses qu'il a souffertes. On se rend compte que Jésus, qui était parfait, a quand même dû apprendre l'obéissance et la soumission à son Père. Ce n'est pas toujours facile de se soumettre. C'était vrai pour Jonas, Jésus l'a expérimenté, mais nous devons apprendre à nous soumettre à la volonté de Dieu, et cela, ça s'apprend. Et il est dit ici que Jésus, il a appris. Il était fils et pourtant, il a appris de Dieu la nécessité d'obéir. Alors, concernant Jonas, il est rentré en lui-même, il a réfléchi sur sa situation, en se disant « Je suis éloigné de l'Éternel, j'ai désobéi. » Il a demandé pardon à Dieu. On peut dire qu'il s'est repenti, qu'il a fait demi-tour et que maintenant, il va dans la bonne direction. Dieu va donc le rejeter sur la rive de la terre, exactement à l'endroit en fait où il était parti de Jaffo. Il est retourné à la case départ. Et c'est là que la parole de Dieu se fait entendre à lui au verset 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces termes. Ça veut dire que Dieu lui donne une deuxième chance. Il avait échoué à la première fois, mais Dieu n'a pas laissé son serviteur le nez dans la poussière, dans le ventre du poisson. Il l'a libéré et il lui a permis de reprendre la marche. Il faut comprendre comment Dieu fonctionne avec nous, parce que nous le disons, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons donc un père. Et nous qui avons des enfants, si vous êtes parents, eh bien, on peut comprendre un peu comment Dieu agit envers nous, comment nous agissons envers nos enfants. Par exemple, nous sommes là pour encourager nos enfants, pour les aider à progresser. Nous allons leur donner tout ce qui est nécessaire pour qu'ils aillent de l'avant. Comme un père, on ne se réjouit pas quand nos enfants échouent, quand ils se trompent, quand ils font des erreurs. On est là plutôt pour les canaliser, pour les aider, pour les conseiller. Je me rappelle, il y a quelques années, quand il a fallu apprendre à notre premier enfant, Pierre, à marcher. Parce que, comme tous les bébés, il n'est pas né en sachant marcher. Il a fallu qu'il apprenne, comme tout le monde. Et donc, comme il était hésitant, Laurence, mon épouse, s'est placée à l'autre bout de la pièce et moi, je me suis mis de l'autre côté et on l'a mis droit debout et moi, je lui tendais les bras pour qu'il vienne. Eh bien, les premiers pas, il a fait deux pas et pouf, il est tombé par terre. Et qu'est-ce qu'on lui a dit ? Parce que jusqu'à maintenant, il rampait très bien, mais il ne faisait que ramper. Mais on ne lui a pas dit, mais t'es vraiment un minable. T'arriveras jamais à marcher. T'es pas capable de faire deux pas. Vous voyez ? Quand on est parent, qu'est-ce qu'on dit ? Allez, relève-toi, fais un pas de plus. C'est comme ça que Dieu fait avec nous. Il n'est pas là en train de nous enfoncer et de nous dire, mais t'es un mauvais chrétien, tu t'en sortiras jamais, t'es nul. Il nous dit, reprends la marche, fais un second pas et tu vas voir. Et puis, Pierre s'est relevé, il a fait quatre pas la deuxième fois et puis paf, il est tombé. Alors on l'a relevé et puis après, il en a fait six, huit. Et puis après, il a marché, puis après, il a couru et puis après, voilà. Il a réussi à finalement marcher. Alors Dieu nous donne une deuxième chance. Pourquoi ? Parce que nous tombons. Mais quand nous tombons, ce n'est pas pour rester à terre et pour ramper toute notre vie. Parce que Dieu va nous relever et nous allons reprendre la marche. Ça, c'est normal. Et dans la croissance, on apprend de mieux en mieux à marcher, de mieux en mieux à courir, mais une chute est toujours possible. Même quand on arrive à un âge avancé, on peut toujours tomber. Y a même des personnes âgées qui font des chutes encore aujourd'hui. Vous voyez ? Donc, les chutes, ça sera toujours. Et c'est vrai aussi dans la vie spirituelle. Je remarque en lisant l'Écriture que plusieurs croyants ont chuté et ont eu besoin d'être relevés. Par exemple, le peuple d'Israël. Vous connaissez cette histoire lorsque Moïse est monté sur la montagne et il est resté 40 jours, 40 jours, 40 nuits, et Dieu lui a donné les 10 commandements sur deux tables de pierre qui étaient écrits du doigt de Dieu, recto verso. Il a pris ces deux tables de pierre et il est redescendu vers le peuple. Mais quand il est descendu en bas, ils entendaient des cris de... Ils ne savaient pas si c'était des cris de réjouissance ou des cris de guerre. En tout cas, Josué croyait que c'était des cris de combat. Alors, Moïse dit non, ce ne sont pas des cris de combat. Le peuple a péché. Le peuple avait fait un veau d'or pendant l'absence de Moïse. Et Aaron s'était laissé séduire pour construire un veau d'or et le peuple avait... adorer un veau d'or. Et là, il chantait et il se prosternait devant le veau d'or quand Moïse redescend avec les 10 commandements. Mais quand Moïse a vu ça, il a eu le cœur déchiré, il a pris les tables de pierre, il les a jetées par terre. C'était Aaron, son frère, à qui il avait totale confiance, à qui il avait confié ce peuple. Aaron n'avait pas su canaliser le peuple. Le peuple avait... Moïse s'est énervé. Moïse était en colère contre le péché, contre le mal. Peut-être si c'était moi, j'aurais peut-être pris les tables de pierre et je les aurais tapées sur la tête d'Aaron. Mais voilà, pour qu'ils comprennent. Mais Aaron avait péché gravement. Il avait entraîné le peuple dans la faute. Mais qu'est-ce que Dieu a fait ? À ce moment-là, ça aurait pu être terminé. D'ailleurs, Dieu dit à un moment donné, « Je laisse ce peuple, c'est un peuple au courroide, il est insensible, il est raisonnable, je prends Moïse, et à partir de toi, Moïse, je vais faire une grande nation. » On repart à zéro. Et Moïse a plaidé pour le peuple, Moïse a prié, et Dieu a fait grâce, et il a donné une seconde chance. Moïse est retourné dans la montagne 40 jours. Il a à nouveau eu les 10 commandements, écrits du doigt de Dieu, il est redescendu avec. Et merci Seigneur qu'on ait eu cette deuxième chance, parce que sinon on n'aurait pas les 10 commandements, on n'aurait pas eu la suite de l'histoire, et tout se serait terminé pour le peuple d'Israël dans le désert. Donc cette nouvelle chance, Dieu la donne. Dieu l'a donnée au peuple. Dieu l'a donnée à David et Bathsheba. Vous savez comment David a été séduit, il s'est laissé séduire par... plutôt c'est lui qui a convoité, on peut dire ça comme ça, il a convoité Bathsheba. Elle ne faisait rien de particulier, mais... Il a convoité cette femme et il a voulu coucher avec elle. Il a commis l'adultère. Et donc, un enfant est né de cette union illicite. Et lorsque le péché a été dévoilé, que même David a fait tuer le mari de cette femme pour cacher son péché, eh bien, le premier enfant qui est né, cet enfant-là, Dieu a dit, cet enfant mourra. Alors David a prié. David a prié, il a jeûné, ça a duré 7 jours. L'enfant est tombé malade. Et il déclinait de jour en jour. Il a prié, il a jeûné jusqu'au bout. Et quand les serviteurs sont venus le voir en disant, ils avaient peur de dire, mais ton fils est mort. Et il est mort. C'était la sanction du péché. Et à ce moment-là, David a dit, mais ce n'est pas lui qui reviendra vers moi, mais moi j'irai vers lui. Et il a compris que c'était une nouvelle étape. Il est allé vers Bathsheba et ils ont eu un deuxième enfant. Et le nom de ce deuxième enfant, c'est Salomon. Il y a eu une deuxième chance, parce que le premier a été un échec, le premier était la conséquence du péché, mais Salomon, il est dit qu'il fut aimé de l'Éternel. Et vous savez que par la suite, c'est Salomon qui est devenu roi à la place de David. On voit qu'il y a eu chez Salomon quelque chose de béni, de particulier, c'est un des plus grands rois de la terre, c'est aussi ce roi qui nous a laissé le livre de l'Ecclésiaste et une grande partie des proverbes que nous avons dans l'Écriture, c'est Salomon. Donc on voit que Dieu a laissé une deuxième chance et qu'il n'a pas laissé tomber complètement Bathsheba et David parce qu'ils avaient désobéi, mais ils ont pu repartir. Et puis dans le Nouveau Testament, je peux penser à Pierre qui pouvait, devant les autres disciples, dire « Mais moi, je ne t'abandonnerai jamais ». Je serai toujours ferme et fidèle. Peut-être les autres disciples t'abandonneront, mais moi, tu peux compter sur moi. Et pourtant, il a renié 3 fois le Seigneur. On connaît son histoire. Il a pleuré amèrement. Mais est-ce que Dieu l'a laissé dans son échec? Non. Jésus lui a tendu la main et lui a laissé une deuxième chance lorsqu'il lui a dit par 3 reprises, « Paie mes agneaux, paie mes brebis, paie mes brebis. » Et ensuite, il lui a dit, « Suis-moi. » Ça veut dire, « Reprends ton service. » Ça veut dire que pour Pierre aussi, il y avait une deuxième chance. Il n'est pas resté dans son reniement, il a demandé pardon et Jésus l'a réhabilité et il a continué à servir. Et on sait combien il a été puissamment utilisé par le Saint-Esprit puisqu'il a, le jour de la Pentecôte, il a fait l'œuvre de Dieu. Beaucoup d'âmes se sont converties et ça, c'est une grande bénédiction d'être utilisé par Dieu. Mais voyez, toutes ces personnes qui nous ont précédés avaient leurs forces et leurs faiblesses, leurs failles, et ils ont chuté à des moments. Mais Dieu les a relevés et ils ont pu reprendre la marche. Ça, c'est le premier point. Dieu donne une seconde chance à Jonas. Le deuxième point, c'est au verset 2. On voit maintenant l'efficacité du message. Au verset 2, « Lève-toi, va à Ninive la grande et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Ici, Dieu demande à Jonas d'aller prêcher la parole de Dieu, le message que Dieu lui donne, à Ninive. Dieu ne demande pas à son serviteur d'aller convertir les gens, de les forcer à croire, de les pousser dans leur retranchement pour qu'ils finissent par accepter, non. Il leur dit juste, tu vas annoncer ce que je te dis. C'est simple, annoncer la parole. La parole n'est même pas celle de Jonas, ce n'est pas celle qu'il pensait pour eux, mais c'est la parole que Dieu a mise pour cette ville. Et donc, il va le faire, il va obéir. Et lorsque la parole est annoncée, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que lorsque la parole est annoncée sous l'onction du Saint-Esprit, des cœurs sont touchés et ils se convertissent. Ce qui va se passer ici à Ninive, on a cet exemple dans Jean chapitre 16, versets 7 et 8. « Cependant, c'est Jésus qui parle, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, voilà ce qu'il fait maintenant. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il va convaincre de péché. Pourquoi ? Parce que personne, la plupart des gens, ne se considèrent pas comme pécheurs. Ils considèrent que leur vie n'est pas plus mauvaise que les autres. Ils vont se trouver plein d'excuses en disant « Bien moi, je ne fais pas, je ne vole pas, je ne tue pas, je suis un bon croyant finalement. » Ou alors « Tout le monde le fait et puis c'est admis dans la société, donc maintenant il faut vivre avec son époque, comme on entend souvent. Il ne faut pas vivre au Moyen-Âge, il faut vivre avec les valeurs d'aujourd'hui. » Eh bien, tout cela nous montre que les gens ne savent pas ce qu'est le péché et ne se considèrent pas pécheurs. Mais comment vont-ils faire pour se convertir, pour donner leur cœur au Seigneur, s'ils ne réalisent pas qu'au fond d'eux-mêmes, ils sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu et qu'ils sont perdus ? Eh bien, c'est ce que le Saint-Esprit va faire, frères et sœurs, quand la parole est annoncée. Comme l'homme est tellement éloigné de Dieu qu'il ne comprend même pas qu'il est pécheur, il ne réalise même pas sa condition de perdition, eh bien, Jésus dit qu'il enverra le Consolateur, l'Esprit Saint, et il convaincra le pécheur, il convaincra le monde de sa situation de péché. S'il n'y a pas cette conviction, eh bien, la personne ne peut pas se repentir vraiment parce qu'elle n'a pas réalisé déjà son problème. Donc, une fois convaincue de péché, elle va se tourner vers Dieu qui est le seul espoir et elle va accepter Christ dans sa vie. Mais tout cela va se faire quand on annonce la parole, quand on témoigne. Le Saint-Esprit travaille le cœur, il convainc de péché et quand la conviction de péché est faite, alors la conversion, elle suit dans la foulée. Parce que quelqu'un qui réalise qu'il est pécheur devant Dieu, il n'a aucune issue, aucune échappatoire. Il sait que c'est la mort éternelle qui l'attend. Et il ne peut que saisir la main de Dieu qui lui dit « Je te fais grâce ». C'est ce qui m'est arrivé personnellement lorsque j'avais 17 ans, lorsque j'étais en vacances dans cette ville de Royan. Mes deux amis étaient déjà chrétiens. Moi, je n'étais pas encore chrétien. Et pendant le culte, mes amis m'avaient entraîné au culte et il y a eu un don spirituel, je crois que c'était un parler en langue, oui c'est ça. Il y a eu un parler en langue et ensuite une interprétation. Et en fait, je connaissais déjà tout le message de la parole de Dieu, puisque j'étais à l'église depuis enfant. Je savais que Jésus était mort à la croix pour les gens, qu'il était mort, qu'il avait effacé nos péchés, tout cela. Je connaissais bien la Bible. Mais je n'étais pas encore convaincu de péché. Je n'avais pas réalisé que j'étais vraiment pécheur comme les autres, qui sont loin de Dieu. Alors, à ce moment-là, pendant le culte, le Saint-Esprit, alors que ce don spirituel était en train d'être exprimé, en fait, qu'il apportait des paroles de Dieu, et j'ai compris que c'était pour moi, ce don spirituel révélait ma situation, que j'étais perdu, eh bien, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que le Saint-Esprit est venu sur moi et j'ai vécu une conviction de péché. J'ai réalisé pendant le culte que je n'avais jamais compris jusqu'à maintenant. Je l'avais lu, mais je ne l'avais pas compris dans mon esprit. J'avais lu que tous les hommes sont pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Mais là, j'ai réalisé que moi, j'étais pécheur, séparé de Dieu et perdu. Je l'ai réalisé dans mon cœur, dans ma vie. Et c'était tellement fort, je voyais mon âme noire, je voyais mes péchés, je voyais... voilà. C'est comme si le Saint-Esprit m'avait ouvert les yeux sur ma propre situation, alors qu'avant, j'étais aveugle. Oui, je pouvais dire « Jésus est mort à la croix pour les péchés du monde », mais ça n'avait aucun impact sur ma vie. Mais une fois que le Saint-Esprit a procédé à une conviction de péché, ce jour-là, à l'instant même, j'ai accepté Jésus comme mon Sauveur et Seigneur dans ma vie. Je n'ai pas remis à demain, je n'ai pas repoussé plus tard, parce que je savais qu'il me tendait la main et qu'aujourd'hui, c'était jour de grâce. D'ailleurs, il ne faut jamais reporter à demain, parce que qui sait si demain, on sera encore là. On ne sait pas, dans la nuit, peut-être on va être pris, on ne sait pas. On ne sait même pas si on sera vivant dans une heure. Donc, si vous entendez l'appel de Dieu, ne tardez pas. Moi, j'ai saisi la main du Seigneur. Parce qu'en même temps que, vous voyez, c'est ça avec Dieu. En même temps, il vous convainc que vous êtes pécheur, que vous êtes perdu, que vous êtes privé de la gloire de Dieu. Et en même temps, il tend sa main de grâce pour vous dire, je peux te pardonner, je peux te sauver, tu peux être libéré de l'esclavage, tu peux être délivré. En même temps, et j'ai saisi la main de Dieu, et j'ai abandonné tous mes péchés à la croix, et je suis ressorti du culte, j'étais une nouvelle créature. C'est mon expérience, mais vous pouvez faire une expérience. Alors, ça sera certainement différemment, peut-être dans un autre lieu, parce que toutes les histoires sont uniques. Et en fait, Dieu agit de façon personnalisée. Il va agir avec vous à la meilleure manière qui convient pour votre existence. Mais néanmoins, si vous n'avez pas encore réalisé que vous êtes pécheur, eh bien, vous ne pouvez pas vous convertir, vous ne pouvez pas vous donner pleinement au Seigneur. Regardez, par exemple, dans le Nouveau Testament. Lorsque Pierre va prêcher la parole de Dieu, il est rempli du Saint-Esprit, c'est le jour de la Pentecôte. Il nous est dit qu'il y a 3000 personnes qui se sont converties ce jour-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit « leur cœur a été vivement touché ». Et pour que ce cœur soit touché, c'est donc l'action du Saint-Esprit qui va briser la carapace, qui va les convaincre de péché et qui va leur permettre de passer de la mort à la vie. Et ils ont saisi la grâce. Il y en avait 3000, peut-être il y avait plus de gens qui écoutaient la parole de Dieu ce jour-là. Mais en tout cas, il y en a 3000 qui ont saisi la grâce de Dieu. Le cœur est tellement dur, il est tellement imperméable aux choses de Dieu qu'il nous faut l'action du Saint-Esprit qui va briser cette carapace et cette œuvre de salut va pouvoir se faire. Ésaïe 55, verset 11, nous parle de la puissance de la parole de Dieu. C'est ce que Jonas va faire, il va prêcher la parole. Ésaïe 55, 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche ?» C'est Dieu qui parle. « Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » La parole que nous avons, elle est puissante, elle est agissante. Proclamons-la. Quand nous disons la parole, au moins nous sommes sûrs de ne pas dire d'erreur. Elle est la vérité et en plus, on se rend compte qu'elle agit dans le monde spirituel et elle permet d'exécuter la volonté de Dieu. J'ai trouvé plusieurs images dans la parole que je voulais vous laisser qui sont tout à fait intéressantes. J'en ai trouvé 7. La première image de la parole, c'est comme un feu qui purifie. Et on sait que le péché doit être purifié, alors recevons la parole de Dieu dans notre cœur. La parole, c'est comme un marteau qui brise le roc. La parole aussi va avoir un effet sur les cœurs pour briser la carapace. La parole, c'est comme une lampe qui éclaire notre sentier. Une lampe, comme on est dans l'obscurité, elle nous permet de voir clair. Et nous pouvons dire que les chrétiens ont une claire vision. La parole, c'est un pain, c'est une nourriture pour notre âme. On ne mange, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il y a une autre nourriture, c'est la parole de Dieu, parce que vous pouvez avoir l'argent, vous pouvez avoir les biens matériels, tout ce que vous voulez, tout ce que le monde propose, les vacances, les plaisirs de cette terre, et avoir un cœur sec et vide, parce qu'il n'y a pas la parole de Dieu qui nourrit votre âme. Donc, c'est un pain qui nourrit notre âme. Cinquième image, la parole, c'est une épée qui tranche et qui permet de combattre l'adversaire. Vous savez que Jésus a toujours combattu le diable avec l'épée de la parole. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. À chaque fois qu'il était tenté, le Seigneur sortait l'épée de la parole. Nous avons aussi l'épée de la parole. Sixième image, la parole, c'est un miroir qui reflète l'état de notre cœur. Alors souvent, quand nous lisons la Bible, nous disons « Ah oui, ben ça c'est bien la sœur untel. Ah oui, ça correspond bien au frère untel. Hein. » Oui, ouais, ouais, tout à fait. Oui, mais normalement, c'est fait pour nous. Donc la parole de Dieu révèle l'état de notre cœur. Et c'est cela, quand on lit la parole de Dieu avec un regard de jugement, on va voir le jugement chez les autres. Mais si on a un cœur ouvert et un cœur réceptif, on va voir ce que Dieu veut nous dire dans notre situation et dans notre âme et ce qui a besoin d'être changé. La parole, c'est un miroir et la parole, c'est aussi une pluie qui apporte le rafraîchissement dans le désert. Et quand vous vous nourrissez de la parole de Dieu, vous recevez un rafraîchissement spirituel dans vos muscles, dans vos os et vous êtes renouvelé. On a reçu quelque temps de cela les bien-aimés Gédéon qui travaillent à distribuer la parole de Dieu. Et eux, ils ne font que distribuer la parole de Dieu. Ils ne prêchent pas directement l'Évangile, mais ils répondent aux questions. Et néanmoins, on se rend compte que la parole de Dieu, en elle-même, a la puissance pour toucher les cœurs. Et ils ont donné des témoignages, notamment un des frères qui faisait cela, qui est à Bordeaux actuellement, qui est un des frères Gédéon qui distribue. Eh bien, il s'est converti lui-même en allant dans un hôtel. C'était aux États-Unis et il y avait la Bible des Gédéon. Et comme il était en voyage d'affaires, il a lu. Et la puissance de la parole a fait son œuvre dans son cœur. Personne ne lui avait parlé de Jésus, de Dieu. Enfin, il était catholique non pratiquant. Mais quand il a reçu la parole, ça a produit en lui une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Et il s'est donc converti. Il est venu en France, il a joint une église, il a commencé à servir. Aujourd'hui, il sert le Seigneur comme Gédéon. Et il racontait ceci, c'est qu'un jour, il y avait quelqu'un qui était sur un toit en train de bricoler et il a trouvé un petit testament bleu. Ça veut dire que quelqu'un avait jeté un petit testament bleu des témoins de Gédéon sur un toit. Personne ne pouvait le savoir. Mais cet homme-là qui travaillait, il a lu la parole et il s'est converti avec ce petit Nouveau Testament des Gédéons. Vous voyez, la parole semée peut faire des choses qu'on n'imagine pas. Même si elle est jetée parfois, elle est mise de côté, eh bien la parole est puissante. Si vous vous rappelez, il y a quelque temps, on a reçu cet homme qui se fait appeler Elias. Et son témoignage est très intéressant. Pourquoi ? Parce que cet homme, il avait adhéré à l'islam. Il était donc en Afrique du Nord. Il s'était marié avec une femme musulmane et il devait devenir musulman. Alors il l'a fait au début par obligation pour pouvoir se marier, puis après il a adopté l'islam. Et puis après il a cru et après il a tellement travaillé qu'il est devenu imam dans l'islam. Et à un moment donné, il avait le cœur si vide et il était si malheureux dans sa religion qu'il est allé dans un monastère et il a vu une Bible là et il avait toujours entendu parler de la Bible comme c'était le livre interdit, le livre à ne pas lire, le livre à rejeter. Eh bien, il a volé la Bible. Et en emportant cette Bible, il l'a lue discrètement à la maison. Eh bien, sans qu'on lui prêche l'Évangile, sans qu'on lui parle de quoi que ce soit, c'est en lisant la parole de Dieu qu'il a compris que Jésus était le Fils de Dieu et il a accepté Jésus comme son Sauveur, avec la parole de Dieu. Alors, il est passé de l'islam à la foi chrétienne, par la parole de Dieu. C'est un miracle. Mais la parole de Dieu est puissante pour libérer les cœurs de l'esclavage. Et des exemples, vous en connaissez certainement de nombreux, où la parole a fait son œuvre dans des cœurs fermés. Un troisième point, c'est le verset 5. J'ai dit donc la parole de Dieu, la puissance de la parole, et le verset 5, c'est la conversion des habitants de Ninive. Les gens de Ninive crurent à Dieu et ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Ici, il y a deux éléments très importants dans ce passage qui sont la foi et la repentance. Sans la foi et la repentance, vous n'avez pas de conversion. Il y a les deux éléments nécessaires. La foi, c'est quoi ? La foi, c'est faire confiance à Dieu, qu'on ne voit pas, mais c'est un petit peu mettre notre confiance qu'on a naturellement dans les gens, mais la mettre en Dieu. On fait tous naturellement confiance à des tas de personnes qu'on ne connaît pas. Par exemple, quand vous allez au restaurant, admettons vous allez au restaurant chinois, eh bien vous faites confiance qu'il n'y aura pas du poison dans les menus qu'on va vous présenter. Vous allez le manger, j'allais dire avec foi, avec confiance. Et pourtant, vous ne connaissez pas qui est dans ce restaurant. Vous ne savez pas qui sont ces gens qui ont fait le menu. Et vous faites confiance. Et la confiance, en fait, on le fait naturellement. On est naturellement confiant dans les autres. Lorsque, par exemple, vous montez dans un téléphérique, vous faites confiance que bien, le câble va bien vous tenir en hauteur et que vous n'allez pas faire une chute de 20 mètres ou 30 mètres de haut et vous effondrer par terre. Vous faites confiance. Et bien, cette confiance-là que l'on a naturellement, la foi, c'est de dire, eh bien, je vais faire confiance à Dieu. Et je vais lui dire, oui, Seigneur, toi, tu dirigeras toutes choses et toi, tu es fidèle et on peut croire tout ce que tu dis. Et puis, la repentance, c'est quoi ? La repentance, c'est tout simplement reconnaître que l'on est pécheur et demander pardon à Dieu pour ses péchés. Et Jésus, alors on peut lire Marc chapitre 1, verset 15, vous allez voir qu'il y a les deux éléments très importants. Vous comprenez que ce qui est dit ici dans l'Ancien Testament, c'est Jésus qui l'explique encore, il l'explique encore très précisément dans Marc 1, 15. Jésus disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, et il dit, repentez-vous, on retrouve la repentance, et croyez à la bonne nouvelle. Et on retrouve la foi, la repentance et la foi. Et la foi plus la repentance, ça fait que les gens se convertissent à Christ, se convertissent à Dieu. Notez ceci, c'est que Jésus, c'est la parole incarnée, il n'y a pas plus puissant. Et pourtant, quand Jésus annonce la repentance et la foi, tous ne se sont pas convertis. Pourquoi ? Parce qu'il y a un autre élément qui maintenant nous appartient, c'est la liberté d'accepter ou de refuser. Et c'est ce qui va se passer pour la plupart des gens. Eh bien, nous leur parlons du Seigneur, nous leur annonçons la repentance, la foi, mais ils ont leur mot à dire, ils ont leur liberté de dire oui, je crois, ou non, je ne crois pas. Et c'est là que ça va se jouer pour une conversion ou pas. Et on peut toujours s'opposer au Saint-Esprit. Vous voyez, j'ai noté Matthieu 23, 37 qui dit ceci, c'est Jésus qui pleure sur Jérusalem parce qu'ils ont péché contre Dieu. Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Ce sont des gens donc à qui Jésus a parlé de Dieu, de l'amour de Dieu, mais ils n'ont pas voulu entendre ce que Jésus dit. Donc on voit qu'ils ont leur liberté et cette liberté a fait qu'ils ne se sont pas convertis parce qu'ils ont refusé le message de la grâce. La conversion, c'est donc cela, c'est faire un demi-tour, se détourner du péché, ça c'est la repentance, et s'attacher à Dieu, ça c'est la foi. Ça, quand on fait la conversion, on a les deux éléments en même temps. J'ai noté aussi un verset de Paul qui exprime bien ce qu'est la conversion. C'est dans 1 Thessaloniciens 1,9. Il dit « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. » Vous vous êtes convertis en abandonnant les idoles. Alors ça, c'est l'abandon du péché, c'est-à-dire la repentance. Pour servir le Dieu vivant et vrai, eh bien maintenant ici, c'est la foi, c'est s'attacher à Dieu, c'est suivre le Seigneur. Eh bien, voyez, dans la conversion, vous avez d'un côté l'abandon du péché et de l'autre côté l'attachement aux choses de Dieu, au Seigneur. Et c'est comme ça qu'on peut avancer. On a par exemple l'illustration de Zachée, qui était un collecteur d'impôts dans la Bible. C'était un ennemi, c'est-à-dire il collaborait avec les Romains qui étaient ennemis des Juifs. Et lui, il cherchait à voir Jésus. Mais la Bible dit que bien qu'il était pécheur, Jésus a voulu aller chez lui. Donc Jésus va partout. Il a voulu aller chez lui. Maintenant, Zachée avait la liberté soit de dire oui, soit de dire non, parce que le Seigneur ne va pas forcer une porte. Si vous lui dites non, ben il ne va pas venir. Mais il a dit oui. Ah oui, je veux bien. Il a accepté. Jésus est venu chez lui, tout simplement, pour un repas. Et il y avait un tel vide au fond du cœur de Zachée. Il avait de l'argent, c'est vrai. Il avait même extorqué de l'argent à des pauvres. Il avait plus de biens que ce qu'il faut, mais il sentait au fond de lui-même qu'il avait besoin d'autre chose. Ce besoin d'autre chose, c'est ce besoin de la paix de Dieu, du pardon des péchés que Dieu apporte. Alors, il a simplement exprimé sa foi en disant « oui, je crois ». Il a accepté en fait Jésus, il s'est repenti de ses péchés et il a eu une vie nouvelle. C'est Dieu qui l'a transformé, il est devenu croyant. Ça se voit qu'il est devenu croyant parce que Zachée dit « Eh bien moi, je rendrai aux pauvres, je rendrai à tous ceux à qui j'ai fait du mal, je leur rendrai tout ce que j'ai pris et même j'en rajouterai encore pour compensation. » Jésus dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Voilà l'exemple d'une véritable conversion. Quelqu'un qui a abandonné le péché et qui maintenant s'attache à faire la volonté de Dieu. Le quatrième point, c'est au verset 10. C'est la repentance de Dieu. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. L'expression ici, la repentance de Dieu, a suscité l'interrogation de beaucoup de chrétiens. Qu'est-ce que signifie la repentance de Dieu ? Tout d'abord, nous pouvons dire de suite que la repentance de Dieu n'a rien à voir avec la repentance des hommes. C'est deux choses différentes, un petit peu comme la perfection de Dieu est différente de notre perfection parce que Jésus dit « Soyez donc parfaits, vous les hommes, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Mais nous sommes dans deux domaines de perfection différentes parce que nous ne pouvons pas atteindre la perfection de Dieu qui est absolue et qui est sur le plan moral, mais il nous est demandé d'être parfait dans le sens d'être accompli, d'être entier, d'être mature. Donc déjà, on comprend dans l'Écriture qu'il y a des choses qui concernent Dieu et des choses qui concernent l'homme. Et la repentance qui concerne l'homme, on en a parlé, c'est demander pardon pour ses péchés, mais la repentance en ce qui concerne Dieu, c'est autre chose, c'est une manière de parler qui signifie que Dieu va renoncer au jugement qu'il avait prévu de faire et qu'il va faire grâce. Et l'auteur dit, Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de faire. C'est-à-dire que Dieu avait résolu de juger cette ville et de condamner les pécheurs. C'est encore le cas aujourd'hui. Dieu a résolu de condamner les pécheurs à la mort éternelle. Il y a plusieurs versets qui montrent que le salaire du péché, c'est la mort. C'est donc une résolution. Mais en même temps, Dieu a décidé de faire grâce et que celui qui croit et qui demande pardon pourra être pardonné de ses péchés. Cela signifie que Dieu ne nous traite pas selon nos péchés parce que nous devrions tous mourir à cause de nos fautes, mais il nous traite dans sa grâce, dans sa bonté et il nous pardonne. Alors, rappelons-nous ceci, c'est que même s'il nous fait grâce, Dieu a toujours le pouvoir et il est toujours juste juge. Et si un chrétien s'éloigne de Dieu, s'il lâche la main du Seigneur et retourne dans le monde, eh bien, il retombe sous le jugement. Ce n'est pas parce que Dieu nous a fait grâce une fois que c'est définitif. Si la personne ne marche pas dans les voies de Dieu, elle retombe, elle peut même faire naufrage par rapport à la foi, dit la parole de Dieu. Elle peut reconnaître une situation de perdition et d'éloignement du Seigneur et retomber sous le jugement et la condamnation. Ce qui signifie pour nous d'être ferme, comme dit Jésus, de persévérer jusqu'à la fin et d'être sérieux dans notre engagement avec Dieu. Même si nous connaissons des chutes, eh bien, nous savons que si nous sommes déterminés, si nous sommes fidèles, eh bien, il nous relèvera. En conclusion, que peut-on dire ? Eh bien, c'est que Dieu accorde une deuxième chance à ceux qui sont tombés. Si on se repent, si on demande pardon pour nos péchés, si on croit que Dieu est amour et qu'il veut faire grâce, si on est bien disposé, eh bien, peut-être vous avez connu un premier échec. Vous avez connu une difficulté, peut-être c'est un échec dans le couple, un échec dans le travail, un échec dans le service. Quelle que soit la difficulté, eh bien, ce n'est pas définitif. Avec Dieu, il y a une deuxième chance, comme ça a été le cas pour Jonas. Il avait complètement échoué, mais Dieu l'a réhabilité et l'a utilisé puissamment. Dieu peut nous utiliser encore, même si vous pensez que vous n'en valez pas la peine. Comme Jonas, au moment donné, il était tellement déçu de lui-même qu'il considérait que ce n'était pas la peine. Mais la parole de Dieu est toujours efficace pour amener des gens à la repentance. Je cite un dernier verset. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Ça, c'est la volonté de Dieu. Il le veut pour votre vie, il le veut pour votre âme. Mais vous avez votre part. Maintenant, c'est l'acceptation, c'est la décision de dire « Oui, Seigneur ». On va prier quelques instants. Merci encore pour ta parole. Merci pour l'exemple de Jonas que tu as relevé après son erreur, après son échec. Et Seigneur, tu veux le faire pour nous ce matin, pour celui ou celle qui est tombé, pour celui ou celle qui s'est égaré, Seigneur. Tu as encore un deuxième plan, tu as encore une deuxième chance et tu viens nous dire à nouveau « Je t'aime, mon enfant ». Tu es encore mon serviteur, tu vas encore accomplir des choses dans ma maison, tu vas encore faire l'œuvre de Dieu. Merci Seigneur parce que ton amour est infini, parce que tu pardonnes celui qui se repent sincèrement, parce que tu relèves celui qui est tombé et parce que tu fais grâce aux coupables. Seigneur, tu connais la situation peut-être de celui qui n'a pas encore accepté Christ. Et nous te prions dans ton œuvre de faire cette conviction de péché, oh, sans laquelle c'est impossible Seigneur de se repentir. Et nous te prions de le faire dans le cœur, Seigneur, pour que des âmes passent de la mort à la vie, de Satan à Dieu, et pour avoir cette vie nouvelle que nous avons dans le nom de Jésus. Nous te disons à toi toute la gloire. Amen.